Pêle-mêle-bêche.
L'émission des jardins.
Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler dans Pêle-mêle-bêche? Tout d'abord, la préparation de la terre du jardin avec Gabrielle. Ensuite, Marianne va nous parler de son compost à l'arrache. Puis le roi Topi va nous parler de ses sujets. Y en a-t-il de nouveaux? Carole va nous faire une page petit pois. Puis, des jardins et des hommes avec Robin et Tessa.
Vert de terre, toi qui sembles si solitaire. Vert de terre, as-tu une donzelle à qui tu es très fidèle? Ou es-tu célibataire, une chérie dans chaque botte de terre? Vert de terre, quelles sont tes pratiques, sexuelles ou érotiques? As-tu des positions de prédilection? Vert de terre.
Mais petit, tu me sembles bien curieux. Et pour lever le voile sur ma vie intime, je vais bientôt te raconter.
Mais non, mais c'est pas de ça que tu dois nous parler aujourd'hui.
Comment ça? De quoi tu veux que je te parle?
Vert de terre, depuis que je suis petit, on me raconte cette folie, que quand on te sectionne, tu te multiplies. Vers de terre, n'as-tu pas peur des bêches, des motoculteurs, des broyeurs? Même en petits morceaux, tu es notre super-héros!
Oh là 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 là, quel remue-ménage! Quel bordel dans ce jardin, moi qui me suis gelé là jusqu'au mois de février. Là d'un coup, il y a tout qui bouge, et il a fallu que je déménage pour aller vers un coin beaucoup plus tranquille.
Eh oui, mais c'est le printemps, le jardinier s'attelle à préparer la terre de son jardin. Souvent, on entend des bruits de moteur, voilà. Le motoculteur a remplacé la charrue. Joie, un peu d'essence et le tour est joué. Quelques passages, la terre est ameublie, les herbes sont arrachées, découpées, retournées. Il n'y a plus qu'à semer et à planter. Parce que l'objectif de la préparation du jardin potager, c'est bien d'avoir une terre aérée, riche et sans trop de mauvaises herbes. Oui, mais alors, et les vers du jardin, les vers de terre, est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'en les coupant avec les lames du motoculteur ou avec la bêche, en retournant le jardin, on les multiplie? Comme le veut la légende du ver de terre? Ou bien est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il se régénère à partir de morceaux? Enfin bref, toute une légende qui nous a poussé à mener une enquête auprès des jardiniers, a dit, à l'Aube et au Perrier. On leur a posé la question. À votre avis, que se passe-t-il quand on coupe un ver de terre en deux?
Ça fait mal.
Ça lui fait mal?
Ouais, ça fait un bobo.
Ça fait deux vers de terre?
Moi, j'opte bien pour le mythe de la multiplication des vers de terre. Donc, tu peux couper un ver de terre qui fait 20 cm, et ben, tu peux le couper en 4. Tu auras 4 vers de terre, et après, ça va multiplier, et ton terrain sera beau. Parce que l'utilité du ver de terre n'est plus à faire, on le sait. Hein? Tu connais le ver de terre, l'utilité. Ça aère le sol, donc respiration, ça fabrique l'humus, ça transforme la terre. Voilà.
Donc, autant les couper pour les multiplier.
Voilà, alors. Moi je serais d'accord qu'ici au jardin, une personne soit attelée à couper les vers de terre et hop, à les répandre. Comme ça, en 3 mois, eh ben, tu seras café de vers de terre.
Rien de grave, parce qu'en fait il y a un bout qui repousse, donc no problème. Je pense que ce qui repousse, c'est le bout le plus long. Donc, si c'est du côté de la queue, eh ben, y a une tête qui pousse de l'autre côté. Si c'est du côté de la tête, il y a une queue qui pousse à l'autre bout. Et puis voilà.
Ça dépend à quel niveau on le coupe.
Ah.
Ouais.
Explique-nous.
Ah, mais après, faudrait avoir la vision du ver de terre pour bien établir où le couper, quoi.
Si on veut le couper. Qu'est-ce que tu penses, toi, en fait?
Si on le coupe à un endroit, je crois qu'il repousse pas au niveau de certains anneaux, quoi. 7 anneaux, je sais plus. Mais ça dépend du ver de terre, il y en a plein. Plein de sortes de vers de terre.
Il y aurait un certain nombre d'anneaux, en fait, ouais. Minimum, pour qu'il puisse survivre.
Ouais.
D'accord.
Exactement.
Et par rapport à son anneau central, là, tu crois que c'est avant, après ou...
Ah, c'est une bonne question. Mais à se renseigner, ouais.
D'accord. Ouais. Merci.
D'accord, la question piège.
Donc, le vers de terre, fameuse couper le vers de terre qui pourrait donner d'autres vers de terre, c'est complètement faux. C'est comme le lézard, c'est toute l'histoire d'une partie peut effectivement se guérir si on coupe pas la tête, quoi. Si on coupe l'autre extrémité, un petit peu. Voilà.
Sinon, un petit peu, jusqu'où est-ce qu'on a le droit de couper alors ?
Ah, alors là, c'est une bonne question, je ne suis pas au courant.
Donc on peut lui couper la fin du système et elle va repousser.
Oui, oui, oui. Bah, c'est comme les gens aussi, tu sais, qu'ils ont des problèmes d'intestin, on leur coupe un bout d'intestin, bon, ça marche quand même. Hein. Voilà, à mon avis, c'est pareil.
J'imagine qu'il a mal. J'imagine qu'il se dit putain, fait chier ces humains, ils pensent qu'à leur gueule. J'imagine qu'il a une double conscience et qu'il s'élève spirituellement en se disant vivement que j'arrive à la vie d'après. Voilà.
Bah, il meurt.
Ouais, donc. Toi, tu crois pas au mythe selon
non,
lequel
c'est
ça
faux.
En fait plusieurs ?
Je le sais.
Comment tu le sais ?
Bah parce que tout le monde sait que les vers de terre, c'est super important pour la Terre. Et puis qu'à l'heure actuelle, y en a de moins en moins, malheureusement. Parce que, voilà. Mais ça, c'est pas parce qu'on les coupe en deux. C'est à cause des mauvaises gestions de l'agriculture, quoi, on va dire. Voilà.
Je sais pas la vérité, mais ce qui se dit beaucoup, c'est qu'ils se multiplient. Moi, je pense que non. Et j'ai lu quelque chose dernièrement. Et au contraire, ça le tue. Et c'est pour ça que moi, j'évite beaucoup de travailler en profondeur et la terre, et que c'est une... Parce que les vers de terre, il faut les protéger, au contraire. C'est nos alliés numéro un. Ils font le travail d'aération, etc., beaucoup mieux que nous. Et voilà, on les protège.
Alors, le lombric animal magique qui repousse, se régénère, se multiplie, ou bien lézard, ou bien qui meurt tout simplement ?
Bien, au bout du compte, on peut dire que le lézard qui se multiplie, c'est vraiment un mythe, qui a la vie dure. En réalité, si on coupe un ver de terre, près de l'extrémité de la queue, une nouvelle queue va pousser. Bon, de là, la ressemblance avec le lézard qui a été évoqué, mais s'il est coupé ailleurs, il mourra. En effet, dans la première partie de son corps, il y a quand même des organes vitaux essentiels à sa survie. Il y a sa bouche, son pharynx, ses ganglions cérébraux. Et oui, il a aussi un cerveau. 5 paires d'anses latérales qui se contractent et qui jouent le rôle de cœur. Il y a ses organes reproducteurs masculins et féminins. Et oui, nous parlerons de la reproduction du lombric prochainement. Son œsophage, le jabot, le gésier et son anneau central... ou clitellum, et les cœurs qui lui permettent de distribuer le sang dans son corps via 2 vaisseaux sanguins principaux qui courent tout le long de son corps. Donc voilà, on ne peut pas couper la première partie, c'est sûr qu'il ne survivrait pas. Par contre, un petit morceau à l'extrémité lui permettrait de survivre. Bref, on ne va pas essayer de toute façon de le couper parce que le résultat sera sûrement qu'il mourra. Après, bon, les plus grands responsables de la disparition de la microfaune et de la microflore du sol sont quand même plutôt les herbicides, comme le Roundup, qui est vendu en quantité massive et que beaucoup de jardiniers utilisent de manière excessive dans leur jardin. Aujourd'hui, en Europe, c'est 90% de la faune qui a disparu des sols. Et en France, dans les années 50, on comptait autour de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare dans un champ cultivé, tandis qu'aujourd'hui, on n'en a plus qu'autour de 100 kilos par champ cultivé. Donc vraiment une disparition dramatique.
Incroyable.
Pendant longtemps d'ailleurs, on a cru que le ver de terre était un ravageur du jardin. L'abbé Rosier par exemple, dans son cours complet d'agriculture, qu'il a écrit à la fin du XVIIIe siècle, disait « Tous les cultivateurs savent le tort que font les vers de terre au semis. Il est donc avantageux de connaître les moyens de les détruire. »
Oh, pauvre moulon, mignon.
C'est Charles Darwin, un siècle plus tard, qui a été l'un des premiers à réhabiliter les vers de terre, après les avoir observés et mesurés de façon attentive, en observant son rôle de création du sol par la minéralisation de la matière organique. Et donc il a mis en valeur ce rôle de fouisseur, grâce auquel les vers de terre ont créé des couches successives de sol qui ont permis même de dater des vestiges archéologiques en fonction de la profondeur à laquelle ils étaient enfouis.
Donc, le ver de terre, c'est un allié du jardinier, en fait.
Bah ouais, c'est ça. Très, très précieux. D'abord, il y a 3 grands groupes de vers de terre, et chacun a un rôle différent et qui est très utile pour rendre la terre du jardin souple et aérée. Alors d'abord, en surface, plus près de nous, il y a les vers épigées.
Donc, du grec épi, sur, et gé, la terre.
Exactement. Donc, ils vivent à la surface du sol et se nourrissent de la litière, c'est-à-dire les débris végétaux et animaux en décomposition. Donc, ils permettent d'assurer une porosité au sol de surface et ils rendent le sol plus perméable et donc moins sujet aux inondations. Voilà, l'eau pénètre plus facilement dans le sol et si on a un sol nu dans le jardin, forcément, on aura moins de ces vers-là, mais ils se développent bien quand on a une couche de feuilles à la surface. Les deuxièmes vers, eux, ils sont plus profonds. Ils s'appellent les vers endogés.
Du grec endo, à l'intérieur.
Donc, eux, ils mangent les racines mortes. Et ce qui permet que ces racines ne s'accumulent pas dans le sol et qu'elles laissent la place à l'eau, à l'air et aux nouvelles racines. Les troisièmes vers, ce sont les vers anésiques.
Du grec anésis, élasticité.
Exactement. Donc ça, ce sont les grands lombriques qu'on connaît bien, moulombris mignons. Ils circulent verticalement de la profondeur vers la surface. Ils forment des terriers verticaux. Donc eux, ils sont nocturnes. Et toutes les nuits, ils remontent chercher de la litière en surface. Donc ils avalent avec leur bouche, première extrémité. Ils font demi-tour, pénètrent dans le sol. Leur dernière extrémité, qu'il ne faut donc pas couper, leur permet de vider leur intestin à l'extérieur de la galerie. Ce qui forme ce qu'on appelle, est-ce que vous savez ?
Des turricules.
Des turricules, certains connaîtront peut-être, qu'on observe ces petits amas à la surface du sol. Et ils replongent en profondeur. Donc c'est eux qui brassent continuellement le sol de profondeur, donc qui est riche en argile. Ils le mélangent à l'humus donc, qui est en surface. C'est-à-dire qu'ils font ce mélange de matière minérale qui provient de la roche-mère avec une matière vivante qui provient de la décomposition des matières en surface. En avalant ces deux parties, ils créent ce qu'on appelle...
Le complexe argilo-humique, c'est ça ?
C'est ça, le complexe argilo-humique.
Oh là, t'es trop forte.
Donc, combinaison entre l'argile et l'humus grâce au carbonate de calcium qu'ils ajoutent à partir de leur corps, voilà, par qu'ils sécrètent eux-mêmes et qu'ils rejettent. Ils rejettent ce complexe, donc, qui tient grâce à ça. Voilà, donc en fait, ce sont de véritables créateurs de sol, puisqu'ils permettent cette création de ce complexe qui est vraiment le sol, en fait, qu'on travaille. Donc, en plus d'être des aérateurs du sol.
Si on n'avait pas les vers de terre, on n'aurait pas de jardin ?
Bah, en quelque sorte, oui, c'est ça. Il y a aussi, il faut dire qu'il y a quand même aussi toute une autre microfaune et microflore du sol, qui sont eux aussi, il y a la faune, pareil que les vers de terre, il y a la faune épigée en surface, endogée en profondeur et anésique qui là est constituée principalement des lombriques. Mais bon, il y a une quantité incroyable d'insectes et de petits animaux dans le sol.
Et donc si on veut avoir des vers de terre dans son jardin et pas les abîmer quand on travaille le sol, comment on fait ?
C'est vrai qu'il y a d'autres méthodes plus douces que le motoculteur et la bêche. Par exemple, on peut, si c'est un sol qu'on avait laissé nu ou qu'on a dénudé au printemps pour qu'il se réchauffe, soit il est déjà bien aéré, et bon, on n'a plus qu'à semer et à planter, soit on veut l'aider à se décompacter, en attendant bien sûr qu'il soit ressuyé, c'est-à-dire qu'il soit plus humide, que l'eau se soit bien partie. Sinon, ça rendrait la terre très collante, voilà, de le travailler. Donc, il faut faire attention à ça. Pour l'aérer le sol, on peut utiliser cette méthode douce que connaissent maintenant de nombreux jardiniers, qui est l'usage de la grelinette, du nom de M. Grelin qui l'a inventé, qu'on appelle aussi biobêche ou aérobêche. Donc ça, c'est une bêche à dents qui permet d'aérer la terre en profondeur sans la retourner, uniquement en remuant ses dents grâce à deux manches qu'on tient un dans chaque main. C'est assez ergonomique et ça permet aussi de ne pas se casser le dos comme on pouvait le faire en travaillant avec une bêche qui est quand même assez fatigant. Donc on trouve des modèles variables de grelinettes. Il y a entre 3 et 5 dents en général, donc ce qui fait des largeurs variables qu'on peut choisir en fonction de soit de sa force physique, soit de la largeur qu'on veut travailler. La profondeur des dents est aussi variable, en général c'est autour de 25 cm. On trouve aussi des outils assez novateurs qui ont une profondeur encore plus grande, des dents encore plus profondes, qui permettent de vraiment décompacter à une profondeur avoisinant, je crois, les 40 ou 50 cm.
Et ça, on dit que c'est pas super de aller trop profond dans le sol parce que ça change la structure, ça bouleverse en fait. Non, mais pas de cette manière-là en fait, c'est pas comme le labour.
Voilà, en fait, là, on ne retourne pas le sol, mais on fait simplement... on crée une aération, voilà. On garde les couches dans le même ordre où elles sont déjà. Et on permet juste à l'air de pénétrer et, aux mottes un petit peu de se casser, voilà. Donc voilà, ça évite que toute la faune et la flore qui se trouve dans les profondeurs et qui n'aime pas la lumière, qui n'aime pas la chaleur, se retrouve propulsée en plein soleil, et que ceux qui aiment bien au contraire être en surface et qui ont une morphologie faite pour ça se retrouvent enfouis profondément, et donc que cette vie soit bouleversée.
Et si mon sol est couvert de mauvaises herbes, je peux désherber avec la grelinette ?
Alors, s'il est couvert de mauvaises herbes, d'ailleurs on parlera une prochaine fois, je pense, des mauvaises herbes qu'on peut aussi appeler adventices, parce qu'en fait, bon, on les considère comme mauvaises parce qu'elles concurrencent nos légumes, mais elles ont aussi des rôles positifs. En tout cas, il y a plusieurs techniques pour les enlever, soit à la grelinette aussi. Donc là, il faut savoir que bon, il faut travailler le sol en reculant et en ayant le sol travaillé devant soi. C'est un travail vraiment de patience. Voilà, il faut soulever prendre chaque motte une fois que la terre est aérée par la grelinette, secouer la terre et mettre de côté les mauvaises herbes. En faisant ça, l'intérêt, c'est qu'on diminue énormément le stock de mauvaises herbes sur sa parcelle, et c'est vraiment un gros travail de départ, mais ensuite on aura vraiment les bénéfices les années d'après. Voilà, le but étant de laisser le moins possible de racines dans le sol. En effet, si on pense au motoculteur, un des effets négatifs qu'il a par rapport aux mauvaises herbes, c'est qu'il va couper les racines des mauvaises herbes, comme le chiendent ou le liseron, qui là, par contre, le chiendent, c'est le mythe, c'est le mythe du ver de terre, c'est-à-dire que lui, il se multiplie pour de vrai. Voilà, c'est une plante et ses racines, autant de petits morceaux feront autant de nouvelles grosses plantes de chiendent. Donc c'est mieux d'arriver à enlever toutes ces racines, et c'est vraiment l'avantage du travail manuel et précautionneux de départ, voilà, qui est un investissement pour l'avenir.
Moi, j'ai entendu parler d'engrais verts. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est vrai que semer des engrais verts, c'est très intéressant, parce que ce sont des plantes qui améliorent le sol. Et si vous en avez mis à l'automne dernier, votre terre est sans doute ameublie et pleine de vie, et ça facilite la tâche au printemps. Donc, pour expliquer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais qui auront très envie de le faire l'année prochaine, on les sème à la fin de l'été, à l'automne, sur les planches qui se libèrent des cultures, les cultures qu'on a récoltées. Et donc, ces plantes couvriront le sol pour éviter qu'il soit lessivé par les pluies pendant l'automne et pendant l'hiver. Voilà, parce que la pluie, c'est mauvais de laisser le sol nu. La pluie entraîne tous les éléments minéraux vers le bas. Et en plus, ça peut provoquer aussi des problèmes pour les nappes phréatiques. Par exemple, l'excès d'azote va faire des nitrates dans les nappes phréatiques. Donc c'est bien de préserver tous ces éléments que les plantes vont capter au lieu de les laisser s'en aller. Et qui vont donc être utiles aussi, parce que ça va créer une masse végétale qu'on va ensuite réutiliser. En effet, à la fin de l'hiver, on coupe cet engrais vert et on le pose en surface sur le sol. Les racines, on peut les laisser. En fait, on n'est pas obligé d'arracher. On peut laisser les racines dans le sol et elles se décomposeront dans le sol grâce aussi donc au paillage de la masse végétale par-dessus. Et la terre sera bonne au printemps pour les semis et les plantations. Voilà, à la fin de l'hiver, donc on peut faire ça plusieurs semaines avant d'avoir prévu de faire ses semis. On peut aussi brouiller cet engrais vert et l'incorporer très superficiellement au sol, pas profond. Il vaut mieux le laisser en surface pour que les bactéries puissent l'attaquer. Alors, bon, j'ai toujours pas répondu à la question. Quels sont les engrais verts
Je sais pas, c'est des céréales, c'est des c'est légumineuses.
Ah, hein, ben voilà, exactement. Donc, il y a des céréales. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples de céréales?
Le blé?
Oui.
Le seigle?
Oui.
L'avoine?
Oui, aussi.
Le sarrasin,
bravo. Donc ça, elles sont utiles, ces céréales, parce qu'elles apportent de la matière carbonée au sol. Ensuite, ça va faire des tiges, des pailles, donc qui vont être plus carbonées. C'est un des éléments dont le sol a besoin, qu'on va reposer sur le sol, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aussi, leurs racines vont bien ameublir le sol. Ça va faire un chevelu racinaire qui va rendre le sol bien décompacté et qui va aussi éviter que d'autres herbes envahissent le terrain. Donc ça fera un terrain propre au printemps. L'autre catégorie, effectivement, ce sont les légumineuses. Donc elles ont l'intérêt d'apporter de l'azote aux légumes parce qu'elles, sur leurs racines, elles ont des petits champignons avec qui elles ont fait une symbiose en fait. Donc les champignons arrivent à capter l'azote qu'il y a dans l'air, ce qui est l'azote gazeux, ce qui est quelque chose que ne savent pas faire les plantes. Et en échange, elles absorbent les glucides et des sucres des racines des légumes.
Et quelles sont ces légumineuses ?
Ces légumineuses, alors eh bien...
Il y a la vesse.
Oui, la vesse. La gesse, il y a le trèfle.
Le lupin.
La luzerne aussi, c'est souvent des choses qu'on utilise en fourrage. Il y a aussi le fenugrec, la févrole ou le pois fourragé. Est-ce que vous connaissez des associations fréquentes qu'on peut faire ? On fait souvent des associations...
Avec les pommes de terre ? Non, pas ça.
Non, céréales légumineuses. Enfin, graminées légumineuses. Non.
Pour l'apport de protéines, pour les végétariens ? Non.
Alors à part dans l'assiette, au jardin aussi, voilà. cette association peut être intéressante parce que ça combine donc les effets positifs des deux actions. Par exemple, on peut faire avoine-vesse ou seigle-vesse. Ça, ce sont des choses assez courantes. Un dernier engrais vert qu'on peut utiliser, ce sont des engrais plus mellifères, c'est-à-dire qui attirent les insectes pollinisateurs et aussi prédateurs des pucerons ou autres ravageurs du jardin. Par exemple, il y a la moutarde. Le risque avec la moutarde, c'est qu'il est de la même famille que les...
Ça pique.
Ah oui, ça pique quand on les mange. Mais on peut aussi avoir le risque de pas casser le cycle entre deux familles. Il est de la même famille que le chou, parce que c'est une brassicacée. Et donc, il risque d'attirer la pierrite du chou.
Brassicacée, c'est anciennement crucifère.
Exactement. Donc si vous avez eu des choux avant ou que vous prévoyez d'en avoir à côté juste après, mieux vaut éviter la moutarde qui pourrait préserver la pierride du chou, cette petite larve papillon ensuite qui les dévore. Par contre, finalement, si vous n'avez pas ce souci-là, la facélie est très intéressante. Donc ça, c'est un engrais vert mellifère qui fait de très belles fleurs bleu-mauve qui attirent énormément d'insectes. Et vous pouvez, par exemple, l'installer au printemps à l'emplacement où vous allez mettre par la suite les tomates, les courges, les cucurbitacées, donc des emplacements qui sont encore vides au printemps, si vous n'avez rien prévu de mettre dessus. Voilà, on peut mettre cet engrais vert mellifère qui va attirer plein d'insectes et qui seront bénéfiques pour le jardin. Voilà, eh bien, j'ai fait le tour des alternatives au travail du sol par le motoculteur et la bêche.
Waouh, merci Gabrielle.
Et voici le moment venu de la rubrique compost avec le compost à l'arrache de Marianne.
Bonjour. Eh ben moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du compost à l'arrache. Je ne savais même pas au début que je faisais du compost. Je me suis juste dit, les poubelles, beaucoup de poubelles, comment on pourrait faire pour réduire les poubelles ? Si je commençais par dans mes poubelles trier les légumes là au lieu de les balancer dans la poubelle, je sais que ça va à l'incinérateur, je trouve ça débile. Je vais faire un petit tas chez moi dans un petit seau et puis quand je vais me promener, je le mets dans un coin. Au début un peu n'importe quel coin et puis petit à petit, si je regardais un peu comment ça fait, je le mets tout le temps dans le même coin. Je vais regarder ce que ça fait. Donc j'ai fait ça, et j'ai vu qu'il y avait des plantes bizarres qui se mettaient à pousser à l'endroit où j'avais fait mon compost à l'arrache. J'étais vachement contente. C'était pas toujours des plantes très rigolotes, des fois c'était un peu des ronces, des machins qui piquent et tout. Mais bon, tant pis, c'est toujours ça de moins dans la poubelle après tout. Hein. Un peu plus de ronces dans la nature, c'est pas si grave.
Non, c'est bien.
Ah ouais, ça va.
Surtout quand ça fait
ça.
Des murs.
Je me mettais souvent au pied d'un mur.
On est souvent au pied du mur.
Oui, ça m'arrive souvent.
Ouais, mais ces murs-là, ils ne se mangent pas, ils ne se cueillent pas.
Non. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis maintenant, il se trouve que j'habite dans un endroit où il y a un petit bout à l'extérieur, un petit bout de terrain. J'ai commencé à mettre toujours au même endroit, chez moi, dis donc. Oh, trop la classe. Et puis j'ai continué de cheminer et quand je tirais ma chasse d'eau, je trouvais ça un peu couillon de chier dans l'eau. On peut dire ça comme ça. De faire caca dans l'eau, pardon. Donc à côté des toilettes, j'ai commencé à mettre un seau encore. Moi je marche avec des seaux, j'ai plein de seaux chez moi. Donc j'ai mis un seau, j'ai mis de la sueur au fond et j'ai fait caca dans le seau. Et c'est pas pire que de faire caca dans l'eau, hein.
Non, non.
C'est, je trouve que c'est pas pire. Un peu de sciure par-dessus, ça sent pas mauvais. Et puis voilà, quoi. Donc je mets ça avec les déchets de légumes dans le compost. Ah ouais, j'ai vachement progressé, en fait. J'ai trouvé du grillage à poule. Un beau morceau de grillage à poule. Il y en a au moins, il doit y en avoir au moins 2 mètres, 2 mètres 50, un truc comme ça. Donc je l'ai mis en rond, je l'ai attaché un peu comme je pouvais. Tu sais, le grillage à poule, ça fait un beau cercle. J'aime bien les ronds. Et j'ai posé ça dans un petit coin au pied du mur. c'est à l'ombre, tout, machin. Il paraît que c'est bien pour le compost quand c'est à l'ombre, que plein soleil, tout ça, ça aime pas trop. Donc j'ai trouvé un coin un peu à l'ombre. Super. Et je mets tout dedans, ça le tient un peu, parce que j'ai remarqué, les bestioles, elles venaient bouffer mes restes de légumes.
Des bestioles, des grosses bestioles.
Je sais pas, je les ai jamais vues faire, mais j'ai remarqué, hein. J'avais jeté des courges un peu pourries là, elles sont venues les manger. Elles me laissent même pas pour mon compost. C'est vache, hein. Oh, je me suis dit non. Moi, je vais faire...
C'est pas des vaches, ça doit être des renards ou des rats.
Ouais, je crois que c'est ou pas des vaches, je les aurais vues. Je sais pas. J'ai jamais vu personne le faire, mais j'ai remarqué, hein, ça disparaît, hein, je vous garantis. Hein.
J'ai déjà vu des oiseaux qui picoraient dans le compost. En fait, c'est un vrai garde-manger pour certains parfois. Donc c'est vrai que si tu veux faire un compost.
Ah ouais,
il y a toujours des chats à côté des composts, parce qu'ils surveillent les oiseaux, justement.
Voilà, donc maintenant, je peux garder mes vieux légumes pourris. Hein. Les animaux viennent plus les manger. Non, mais... je rajoute mon caca par-dessus. Et puis, de temps en temps, il paraît qu'il faut touiller un peu, de temps en temps. Alors là, avec le grillage et tout, c'est pas très pratique. Mais bon, j'essaye un peu vaguement. Tu vois, vaguement, très vaguement. Et finalement, le résultat... c'est pas si mal que ça. Mon jardin, il a l'air d'aimer bien. Non, j'ai pas de jardin. Où c'est que je pourrais bien mettre ça
à la mairie.
À la mairie. Il n'y en a pas assez.
Au jardin potager.
Bon, dans mes pots
dans
de
les
fleurs.
Jardins potagers.
Moi, j'ai des pots de fleurs. J'y prends.
Ah oui, c'est bien aussi. Les fleurs au ciel, j'aime ça.
Ouais, les fleurs, elles ont l'air de vachement aimer. Mes plantes vertes. Allez hop, un petit peu. Puis. Ouais, je suis contente.
Eh ben, bravo Marianne.
Merci Marianne. Merci. Il a l'air trop Marianne. Bien ton compost à l'arrache.
Et maintenant, le roi Topi.
Bonjour roi Topi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Avez-vous de nouveaux sujets à votre cours?
Bonjour. Oui, ça croît autour de moi. Des pousses. Alors, je peux constater des pousses d'aux, parce qu'il y a certaines personnes qui ont, voilà, les aux, pluriel d'ail.
Ah, un ail des aux.
On peut dire aussi des ails, mais le roi Topi, il est très...
Il est très châtié dans son...
Ah, oui, il est très, voilà, il tient vraiment à son français, quoi. C'est...
Donc, le roi Topi, moi-même... a pu faire la tournée de ses nouveaux sujets et donc a repéré quelques pousses d'aux, car paraît-il que certains cultivateurs plantent l'ail en automne, l'ail traversant l'hiver et sortant de terre au printemps. C'est magnifique. J'ai un champ très beau autour de moi. Très magnifique. Sinon, quelques petites légumineuses comme les fèves et les pois qui sortent de terre. Les oignons aussi qui ont été plantés en automne. Voilà, je constate cela.
Eh ben, s'il y a du nouveau, hein.
Mm-hmm.
C'est beau. C'est
la course s'élargit petit à petit.
Oui.
Mm-hmm.
Ce n'est qu'un début, nous supposons. Au revoir, roi Topi.
Et maintenant, la page petit pois.
Il était une fois... un prince qui voulait épouser une princesse, mais une princesse véritable. Ainsi débute le conte d'Andersen, La princesse au pois. Il parcourt le monde pour en trouver une, mais en vain. Un soir, alors qu'il fait un temps horrible, on frappe à la porte du château. C'est une jeune fille, toute mouillée, trempée comme une soupe. Toutefois, elle affirme être une véritable princesse. C'est ce que nous allons voir, marmonne la reine-mère méfiante. Elle entre dans la chambre d'amis, ôte toute la literie et dépose un pois sur le lit. Puis elle entasse 20 matelas et dessus 20 édredons.
Le lendemain matin, on demande à la princesse comment elle a dormi.
« Ah, j'ai passé une nuit horrible. C'est à peine si j'ai fermé l'œil. Il y avait quelque chose de dur dans le lit qui m'a fait la peau toute violette. Quel supplice !»
Le prince, ajoute le conteur, bien convaincu qu'elle était une véritable princesse, l'a pris pour femme et le poids fut placé dans le musée où il doit encore se trouver, à moins qu'un amateur l'ait enlevé. Voilà, conclut-il avec esprit, une histoire aussi véritable que la princesse. Le poids remonte à très loin. Les premières traces datent du néolithique ancien, entre 7000 et 6000 avant l'ère chrétienne, au Proche-Orient. Son existence à l'état sauvage se perd dans la nuit des temps. Les graines provenant de la période 6000-5000 avant Jésus-Christ, qui étaient déjà cultivées. Et ce qui fait du petit pois, du pois, l'une des plantes les plus anciennement produites de l'histoire de l'humanité, à l'égal des autres légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. Et aussi à l'égal aussi du blé et de l'orge. Il est donc originaire du croissant fertile, puis il a migré vers l'Europe, l'Égypte et l'Asie. Les auteurs grecs et latins, Théophraste, Pline l'Ancien et Columel, le citent, le pisos grec, ayant donné le pisum latin, d'où est issu notre poids. La nomenclature savante reprend ce terme, adjoint à sativum, qui signifie cultiver. Pisum, sativum, enfin moi je dis ou, voilà, comme à l'école. Au Moyen-Âge, il constitue la base de l'alimentation avec les céréales et les fèves. On le consomme souvent sec, ce qui permet de le conserver et d'en tirer une ressource précieuse en cas de famine. Il est mangé en potage et surtout en purée avec du lard. Qui a des pois et du pain d'orge, du lard et du vin pour sa gorge, qui a 5 sous et ne doit rien, il se peut qu'il est bien. On le vend dans les rues sous forme de purée chaude. Elle constitue aussi la pitance qu'on distribue aux pauvres à la porte des couvents. Différentes variétés existent déjà, pois vert, consommé sec ou frais, mais aussi pois mange-tout, comme le révèle ce cri de Paris rapporté par Guillaume de Villeneuve au XIIIe siècle. « J'ai pois en Corse, tout nouveau. J'ai pois en Corse, tout nouveau. Ils sont beaux, ils sont beaux !» On le trouve mentionné dans toutes les chroniques. Il est présent dans les fabliaux et dans les contes comme Cendrillon où la malheureuse jeune fille doit trier des pois et des lentilles jetées dans la cendre par sa méchante belle-mère. Même phénomène en Angleterre et en Hollande, le pays qui produit les variétés les plus appréciées. Quant à Christophe Colomb, il en emportera avec lui et en fera semer à Saint-Domingue. Est-ce un hasard si le peintre Archimboldo, au XVIe siècle, choisit d'en faire le sourire de l'été ? Rappelez-vous ce sourire tout édenté, enfin non pas tout édenté, tout denté de pois qui donne un air un peu cruel à ce personnage. Alors, levons cette ambiguïté, le petit pois n'est mentionné pour la première fois qu'au XVIIe siècle, et oui, tardivement, hein, dans l'histoire générale des plantes de Jacques d'Alchamp, un médecin lyonnais. Mais il ne possède aucune réalité botanique et ne figure toujours pas dans les catalogues de graines actuelles. L'expression « petit pois », propre à la France, est employée par les cuisiniers et les consommateurs parisiens à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il ne se popularisera que dans le reste de la France qu'à la fin du XVIIIe. Donc il y a une véritable folie qui s'empare à la cour française au XVIIe siècle. Et Madame Maintenon se fait écho de cette folie. Le chapitre des pois dure toujours. L'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé, la joie d'en manger encore sont les 3 pois que nos princes traitent depuis 4 jours. Enfin, ça les rend folles. Et, il y a des dames qui, après avoir soupé avec le roi et bien soupé, trouvent des pois chez elles pour en manger avant de se coucher au risque d'une indigestion. Alors, est-ce que le petit pois a une...
Un pouvoir digestif, hein.
Non, pas digestif, mais aphrodisiaque, je ne sais pas. En tout cas, c'est une mode, c'est une fureur. On les déguste salés ou sucrés, et même en entremets. Donc, cet engouement sera moqué sous forme satirique dans des pièces et des fables. L'historienne de l'alimentation Dominique Michel souligne le goût particulier des femmes dès cette époque pour les petits pois. C'est peut-être leur taille, le fait que ça roule, tout ça, les massages aux petits pois, sans qu'on puisse l'expliquer. Il devient d'usage de faire figurer dans certains menus 2 plats de petits pois. C'est la grande classe. Donc les médecins ne tardent pas à s'inquiéter des effets possibles de ces pois délectables sur les royaux intestins, n'est-ce pas ?
Alors, oui, c'est pas du tout digestif.
Ah, c'est pas très très digestif.
C'est un cousin du topinambour, peut-être. Enfin, faut pas lui dire, il sera peut-être vexé. C'est aussi à la cour quand même.
Exactement. Donc, ce qui éblouit et flatte en effet la cour, c'est moins le produit lui-même que sa précocité, donc sa rareté. Manger des petits pois en janvier, voilà qui permet de se distinguer du bourgeois. Alors, dans le Diwa, est-ce qu'on est des bourgeois?
Bon, en tout cas, le petit pois, moi, je sais que quand j'en trouve, je le mange comme ça sur pied parce que c'est super bon cru. Je sais pas si c'est digeste, mais c'est super bon cru, en tout cas. Et oui, et ça me rendait folle, moi, quand j'étais petite. Puis un jour, mon père, il m'a dit, mais tu sais, à force de manger des petits pois crus, ça va te pousser dans le ventre et ça va te sortir par les oreilles. Les feuilles de petits pois vont te ressortir par les oreilles et tout. Et j'ai tellement eu peur que j'ai arrêté d'en manger. Cru.
Est-ce qu'ils disent la même chose au théâtre de Die pour les enfants ?
Alors voilà, du coup, c'est un bon prétexte pour annoncer qu'au théâtre de Die, le jeudi 3 mai, il y aura le trio pour un petit pois. Alors qui est un conte poétique, je sais pas, composé de jouets, d'instruments et de loupiottes multicolores. Avec trois musiciens qui vont faire entrer les enfants des écoles dans un univers de musique, de théâtre et de cirque. Et ce sera le jeudi 3 mai, je l'ai peut-être déjà dit, mais à 10h et à 14h. Et c'est des séances réservées au public scolaire. Donc il y a déjà des écoles de prévues à ces séances-là, mais je ne sais trop de quelle manière ça peut être ouvert aux curieux et curieuses. Je ne sais pas. Il faut appeler le théâtre, peut-être. Je peux laisser le numéro du théâtre si ça intéresse certains. 04 75 22 12 52. Et on tombe sur l'accueil. Et on peut poser la question. Voilà.
Et maintenant, nous allons parler des jardins et des hommes.
Donc l'idée de cette petite chronique, c'était de parler un peu du côté social des jardins, du rapport à l'humain, comment l'humain se cultive aussi dans les jardins. Et donc on sait qu'il y a différents types d'organisation des jardins, les jardins familiaux, les jardins communautaires, les jardins collectifs, les jardins d'insertion. Qu'est-ce que c'est un peu la différence entre tous ces jardins ? Aujourd'hui, on va voir... faire un petit historique des jardins familiaux, anciennement jardins ouvriers en fait. Les jardins familiaux sont issus des jardins ouvriers. En regardant l'historique des jardins ouvriers, moi je m'attendais à ce que ça soit lié à une histoire de mouvement syndical, de lutte des ouvriers, de revendication de leurs droits, etc. face au patronat, voilà, de l'appropriation de la terre par les ouvriers. Et bah pas du tout, c'est l'inverse en fait. Enfin l'inverse pas tout à fait, mais disons que c'est plutôt lié à un milieu clérical, souvent plutôt de droite, qui ont plutôt participé au développement des jardins ouvriers. C'est apparu bien sûr avec la révolution industrielle, les ouvriers sont apparus à ce moment-là. Donc dès le début du 19e siècle, on a des jardins, des sortes de jardins familiaux qui apparaissent, des premiers prémices. En Angleterre, on a les premiers champs des pauvres. Après, il y en a qui apparaissent aussi en Allemagne. En France, ça commence un petit peu plus tard, vers 1850. Mais c'est vraiment qu'à partir de la fin du 19e siècle, en France, qu'on assiste à l'essor des jardins ouvriers avec... un organisme qui s'appelle l'œuvre de reconstruction de la famille, et puis surtout la Ligue du coin de terre et du foyer, donc créée par l'abbé Lemire en 1896. Voilà, donc on voit le côté très familial, il y avait un côté très hygiéniste aussi de dire c'est le jardinage, c'est la santé, il faut conserver la santé des ouvriers par le travail. Voilà, donc par exemple, l'abbé Lemire disait la terre est le moyen, la famille est le but. Et il y avait un objectif ouvertement revendiqué de détourner l'ouvrier du cabaret et de la révolution. Ouais, donc c'est assez intéressant de voir que l'histoire n'est pas forcément celle à laquelle on aurait pu s'attendre. Donc ces jardins, ils connaissent assez rapidement un succès, parce que le salaire d'un ouvrier à l'époque suffisait à peine, voire pas, à nourrir la famille. Donc forcément, il y avait un besoin alimentaire fort, qui a connu son apogée du coup à la Première Guerre mondiale, forcément, au moment de la grande pénurie alimentaire qu'il y a eu. Donc là, il y a eu vraiment un grand développement de tous les jardins ouvriers. À la Seconde Guerre mondiale, il y a un nouveau rebond des jardins ouvriers avec c'est les jardins du maréchal, donc qui ont été développés par Pétain et qui servaient à étayer l'idéologie pétainiste, un peu de travail, famille, patrie, quoi, de retrouver le ce côté sain de la terre, du travail, en famille.
C'est ce qu'on appelait la doctrine terrianiste, où l'idée c'était que la terre était un élément de structuration de la famille.
Donc en 1952, les jardins ouvriers prennent officiellement l'appellation de jardins familiaux, d'une part parce que... En fait, de fait, ces jardins commencent à s'ouvrir à d'autres populations que uniquement les ouvriers. Et puis, c'était aussi pour signer, en fait, un peu de la part des pouvoirs publics, leur implication dans les jardins ouvriers. C'est-à-dire que, autant avant, c'était géré par des associations, donc comme cette Ligue du coin de terre et du foyer. Donc maintenant, les municipalités, les collectivités territoriales, etc., veulent vraiment s'impliquer plus sérieusement dans ces jardins. Donc qui deviennent les jardins familiaux, mais à partir des années 60, ces jardins connaissent un déclin lié d'une part à l'urbanisation qui a lieu à ce moment-là, donc toutes les terres sont soumises à la spéculation foncière et accaparées par les constructeurs, les entreprises, etc. Connaissent aussi un déclin lié à la prospérité économique que connaît à ce moment-là le pays. Donc il y a moins besoin, ce besoin alimentaire, de production, qui se fait ressentir. Voilà, donc là il y a un déclin qui se poursuit jusqu'au début des années 80, où là la situation économique se dégrade. Et puis la conscience écologique aussi commence à se développer. Et il y a une demande de nature de la part des citadins aussi qui commence à se faire ressentir. Donc là il y a un regain d'intérêt pour les jardins familiaux, voilà, qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Et qui se développe de plus en plus d'ailleurs.
Oui, c'est qui se développe de plus en plus. Mais alors avec des fois des dissonances ou des contradictions, des conflits, des certains heurts qui peuvent se faire en particulier parce que dans les jardins familiaux, l'idée c'est que chacun a une parcelle qui lui est propre. Et donc, quelque part, l'aménage aussi comme il veut. Et donc, souvent, les mairies trouvaient que ça faisait des ordres. Donc, on a vu souvent des mairies qualifiées de bidonvilles, des jardins familiaux, par leur aspect un peu, qui peuvent avoir d'être un peu désordonné, du fait que c'est, chaque parcelle est représentative de l'individu qui la cultive. Donc, y a des urbanistes qui ont travaillé sur la question et qui essayent de développer des jardins avec un type de cabane sur chaque parcelle qui sera toujours la même, des allées bien délimitées, etc. Mais ça fait des jardins du coup très propres, mais avec un côté très uniforme aussi. Donc voilà,
pas d'originalité et de personnalisation.
On en arrive à un côté de standardisation en fait, qui va à l'encontre un peu de ce côté qui peut être parfois désordonné et même bordélique, mais quand même représenter un certain côté de culture populaire.
Donc le point commun des jardins familiaux, c'est une mise à disposition de terrains, de parcelles par la municipalité et avec un poste d'animateur qui est géré par une association de loi 1901. Et par rapport à l'historique des jardins familiaux, on peut dire que contrairement à l'Allemagne et à d'autres pays de l'Europe où ça s'est développé, en France, il y a une image qui est assez dépréciée parce que voilà, c'est un petit peu, il y a une image qui est assez rétrograde. Et en fait, jardins familiaux, voilà, c'est un cadre, mais il y a plein de réalités différentes. Et voilà, il y a des, comme disait Robin, il y a certains jardins qui fonctionnent avec des parcelles individuelles essentiellement, mais il y a aussi des jardins qui fonctionnent voilà, avec un esprit collectif et partagé. Et au niveau de ce qui est des lois, aujourd'hui, concernant tous les jardins collectifs, on peut parler qu'il y a eu en 2003 une proposition de loi qui devait se faire dans le cadre du code rural, qui voulait permettre une reconnaissance et l'intérêt de ces jardins collectifs. Donc ça regroupait à la fois les jardins familiaux, les jardins d'insertion et les jardins partagés. Et cette proposition de loi n'a pas abouti. Ce qui fait que bon, ça n'aide pas à la reconnaissance aussi aujourd'hui des multiples richesses que proposent ces différents jardins. Voilà. Après, en ce qui concerne les jardins familiaux, il y a une fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Et en fait, ils ont écrit une charte qui essentiellement se tourne autour des questions de l'environnement. Donc, une charte éthique avec une manière de cultiver qui respecte l'environnement. Il y a également aussi ce qu'on appelle le réseau JTSE, donc ça veut dire le réseau des jardins dans tous ces états, et qui regroupe tous les jardins collectifs, qu'ils soient d'insertion, familiaux, partagés, etc. Et là, ils ont écrit une charte qui s'appelle la charte du jardin dans tous ses états, où les valeurs affirmées sont plus sociales. Donc, on parlait des jardins et des hommes. Et là, on parle de mixité, de démarches participatives, de solidarité. Et donc, voilà, au niveau législatif, il y a essentiellement ces réseaux qui ont fait des chartes. Mais au niveau loi, pour l'instant, ça manque de reconnaissance et il y aurait beaucoup à faire.
Mais après, les jardins familiaux ou d'insertion, les différents types de jardins dont tu parles, il faut volontairement qu'ils décident d'adhérer, c'est ça, à l'un de ces réseaux. Par exemple, la Fédération nationale des jardins familiaux. Tous les jardins familiaux n'en sont pas membres nécessairement.
Non, c'est des choix.
Ce sont des choix de chaque... Voilà.
Après, ça permet juste des mises en réseau. C'est à plusieurs, on est plus fort. On peut être force de proposition. Il y a, par exemple, sur notre région, il y a ce qu'on appelle le réseau Passe-Jardin. Dans chaque région, il y a un réseau qui compose au niveau national ce qu'on appelle, ce que je parlais, le réseau qui a créé la charte du jardin dans tous ses états, donc le JTSE. Et voilà, il y a le jardin méditerranéen en PACA, et chaque région a un réseau comme ça qui permet aux gens de se regrouper, d'échanger leur savoir-faire et puis d'être force de proposition.
Merci. Oui, alors du coup, est-ce que sur Dyle, il y a ce genre de réseau, de structure organisée sous forme, je ne sais pas, jardins familiaux, jardins ouvriers?
On a la chance à Dyle d'avoir des jardins familiaux, un super projet où il se passe plein de choses, et puis on prendra le temps dans les prochaines émissions de vous raconter tout ce qui se passe dans ces jardins.
D'accord.
Merci Tessa.
Merci. Alors voilà pour cette fois-ci, pêle-mêle-bêche, vous dis au revoir et au mois prochain.